Et comme chaque vendredi, Le Monde selon Hubert Védrine. Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
Et ravi d'être avec vous ici à Berlin, où vous êtes reçu depuis déjà deux jours au moins comme une rockstar. Conférences, débats, rencontres avec de très nombreux journalistes allemands. Est-ce l'effet du 9 novembre 1989 qui vous fait revêtir quasiment à nouveau les habits du ministre des Affaires étrangères que vous avez été, ou qui sait, du porte-parole du président de la République que étiez
ne mélangeons pas,
au moment
y en a un,
du,
y en
la
a
chute
en vrai,
du mur de Berlin, Hubert Védrine. Bon, le 9 novembre 1989, faut-il y voir une date importante? Certains Allemands disent, attention, le 9 novembre pour nous, c'est 1938, c'est la nuit de cristal, donc pas trop de célébrations, pas trop de fêtes. Mais enfin, faut-il y voir quoi? Un symbole de quelque chose qui se terminait, qui était derrière nous, ou le début d'une ère totalement nouvelle, ce que les Allemands appelaient à l'époque le tournant, Hubert Védrine?
Vous savez, moi j'ai vécu ça auprès de François Mitterrand, qui déjà à l'automne 81 avait dit à Helmut Schmidt, d'ici 15 ans maximum, peut-être même pas, peut-être 10 ans, l'Union soviétique ne sera plus assez forte pour empêcher la réunification. Donc tout le travail des années 80, 80, 82, 83, etc., était placé dans cette perspective, toute la relation Mitterrand-Kohl, etc. Donc nous, autour de lui, depuis longtemps, on était convaincus de ça aussi, et on s'attendait à ce que ça ait lieu un jour. On ne savait pas quand et on ne savait pas comment. Et personne ne se posait des questions débiles du genre « est-ce qu'on est pour ou contre ?» C'était évidemment inscrit dans l'histoire, c'était évidemment légitime. Mais on se demandait comment ça allait se passer, parce que pendant très très longtemps, l'idée de la réunification inquiétait dans toute l'Europe. Certains pensaient que c'était une cause de guerre possible avec l'Union soviétique. Donc on s'y attendait. Alors personne n'avait pensé que le mur allait être ouvert, parce qu'il n'a pas chuté, il était ouvert par les autorités de Berlin-Est, allait être ouvert avant la réunification, mais déjà depuis l'été avant, d'ailleurs, les Allemands de l'Est pouvaient partir par la Hongrie. Ils partaient nombreux, donc le mur était déjà, en quelque sorte, un mur Potemkin, vous voyez, par rapport à ça. Alors il y a eu cette précipitation qui était assez bluffante, assez étonnante, assez émouvante, mais pour nous, je ne veux pas choquer en disant ça, mais ça ne changeait pas grand-chose, parce qu'on était déjà dans... comment on va faire, comment ça va se passer, qui va négocier quoi avec qui, etc. Vous voyez?
Parce qu'il faut citer un homme clé, évidemment, un mot clé, Gorbatchev, et
bien
le mot clé, Perestroïka.
Bien sûr. Donc Mitterrand était convaincu longtemps avant, encore plus quand Gorbatchev est arrivé au pouvoir à partir de mars 85, et encore plus quand on a eu la confirmation dès 86-87 que Gorbatchev disait aux dirigeants communistes d'Europe de l'Est, je n'emploierai jamais la force pour maintenir vos régimes.
C'était alors, une manière de dire quoi?
Ça voulait dire qu'il les laisserait tomber s'ils tombaient. Alors sur ça, il leur disait faites des réformes et les autres ne voulaient pas, puis ils ne croyaient pas qu'il allait les laisser tomber.
Erich Honecker à l'époque ne voulait pas faire de réformes du tout, pas un poil.
Il considérait qu'il les avait déjà faites, en réalité. Mais il n'y a pas que Honecker, ça concernait toute l'Europe de l'Est. Alors la Pologne avait déjà un processus grâce à Jean-Paul II, Valéza, etc. Mais en tout cas pour nous, dans la petite équipe là, autour de Mitterrand, c'était des morts vivants déjà. Ces régimes étaient condamnés, donc on était quasiment dans l'après. Comment on va gérer ça? Comment appliquer les idées qu'avait Mitterrand? C'est-à-dire qu'il faut que ce soit pacifique, démocratique, que ça renforce l'Europe. Du point de vue des Américains, il y avait une autre inquiétude, qui était qu'il ne fallait pas que ça affaiblisse l'OTAN. Donc chacun avait ses critères. Et Kohl lui-même, d'ailleurs, était très prudent, parce que 15 jours après la chute, ouverture du mur, donc fin novembre, il fait le fameux discours en 10 points. Et quand on reprend le discours en 10 points aujourd'hui, on est tout à fait frappé parce qu'il présente la réunification comme enfin une perspective réaliste, mais après un long processus, alors qu'on est fin novembre 89. Vous voyez, donc il dit on va faire une confédération, une fédération, un jour l'unité. C'est d'ailleurs pour ça que quand il entend ça, que François Mitterrand se dit je vais maintenir mon voyage à Berlin-Est prévu de longue date, qui fait partie d'une tournée générale, parce qu'il faut accompagner ce mouvement. C'est d'ailleurs ce que fait exactement le président Bush, qui envoie son secrétaire d'État, James Baker, pour dire la même chose aux gens de Berlin-Est. C'est plus tard, en fait, que tout s'est accéléré, c'est-à-dire à partir de début 90. Donc nous, vous voyez, dans les équipes autour des dirigeants, on ne se pose pas des questions théoriques. On s'est dit comment on fait, que faire. Donc c'était les discussions sur quand est-ce qu'Helmut Kohl va clarifier la frontière Oder-Neisse, est-ce qu'on enclenche vraiment le processus pour l'union monétaire. C'était des choses comme ça. Je ne veux pas du tout minimiser l'émotion géante par rapport à l'événement, mais je peux dire que ça s'inscrit dans un processus et c'était un aboutissement pour répondre à votre question. Ce n'est pas un point de départ. C'est un aboutissement.
Comment, cela dit, percevez-vous aujourd'hui, avec le recul 25 ans après cette histoire-là, qui aurait dit que 25 ans après, le 9 novembre 1989, l'Allemagne dominerait, comme on le dit, économiquement l'Europe ?
Oui, mais d'abord, c'est exagéré, la domination. Mais c'est vrai que l'Allemagne a fait un travail formidable, mais ce n'est pas à cause de la réunification. C'est grâce aux réformes de Schröder. Et ici, la France est dans une situation de malheureusement relative décrochage. Ce n'est pas parce qu'il y a eu la réunification. C'est parce que la France n'a pas encore fait les réformes qu'a fait l'Allemagne. Et d'ailleurs, à peu près tous les pays développés, même hors de la zone euro, le Canada l'a fait aussi. Donc, c'est ça. Donc, je dirais, pour résumer, que la réunification a été merveilleusement bien gérée, finalement, à travers 1000 petits désaccords, mais bien gérée. Que la fin de l'URSS a été formidablement bien gérée, contrairement à la désintégration de la Yougoslavie, vous voyez. Et qu'en revanche, je ne crois pas que nous ayons eu collectivement une politique intelligente vis-à-vis de la Russie depuis. Mais c'est un autre sujet, ça.
Et ce sera un des sujets que nous aborderons une prochaine fois avec vous, Hubert Védrine, bien sûr, dans Le Monde Selon. Je vous rends à vos obligations, petit déjeuner avec des officiels, et puis quelque chose qui sera important aujourd'hui tout de même. Enfin, le grand débat entre vous, infâme souverainiste, et le grand libéral européiste, Cohn-Bendit.
Ah non, il faut dire infâme fédéraliste, si vous voulez faire la symétrie.
Voilà, ce sera dans quelques instants.
Mais je voulais dire que vous souhaitez un débat sur vos antennes.
Mais ça fait un moment que nous y travaillons et nous espérons que nous verrons un jour ou l'autre, vous, Hubert Védrine, et Cohn-Bendit. Merci à vous. Bonne journée à Berlin. Et bien sûr, Le Monde selon Hubert Védrine est à retrouver, téléchargé comme chaque vendredi sur franceculture.fr.